La revue de presse internationale. Bonjour Éric Biégala.
Bonjour Guillaume.
Avec, pour commencer, sur le continent américain, ces manifestations au Chili commémorant celles de l'année dernière et qui ont dégénéré dans la soirée.
Oui, des dizaines de milliers de Chiliens s'étaient réunis hier sur la place centrale de Santiago pour marquer le premier anniversaire des manifestations massives de l'année dernière, connues comme le mouvement du 18 août. Pour 18 octobre, des manifestations pacifiques durant la journée d'hier, rapporte l'agence Reuters, mais qui dans la soirée ont dégénéré en émeutes et pillages de supermarchés, ainsi qu'en affrontements avec les forces de l'ordre. Environ 300 hommes masqués ont ainsi attaqué le poste de police du quartier de Puente Alto dans le Grand Santiago à coups de cocktails Molotov, rapporte, vidéo à l'appui, le site d'information BioBio Chile. Ailleurs, près de la grande place Baquedano, où se sont concentrés les manifestants à Santiago, c'est l'église Parroquia de Asunción qui a été prise pour cible et incendiée. Une autre église a également été incendiée hier et plusieurs supermarchés du centre-ville pillés. Commentant ces exactions, le ministre de l'Intérieur, Victor Pérez, a pour une fois fait une claire distinction entre la manifestation pacifique de la Plaza Baquedano et les actes de violence tels que l'incendie des deux églises, remarque le site en ligne El Mostrador. Le ministre estimant que la grande majorité des Chiliens avaient vécu ce dimanche une journée de paix. Les manifestations d'hier étaient surtout l'occasion de faire campagne pour le oui, un référendum visant à réviser complètement la constitution du pays qui date des années de la dictature de Pinochet est en effet prévu pour dimanche prochain. Cet abandon de la constitution était l'une des revendications principales des manifestations de 2019.
Et puis en Europe, Eric, c'est l'élection du candidat d'Ankara à Chypre Nord qui fait parler.
Oui, un résultat un peu surprenant. Le premier tour de cette présidentielle en République turque de Chypre Nord, qui n'est reconnu que par la Turquie, ce premier tour avait bien donné le candidat soutenu par Ankara, Ersin Tata, en tête avec 32% des suffrages. Mais le président sortant, Mustafa Akıncı, arrivé second avec 29%, aurait dû, au second tour, pouvoir compter sur les reports de voix du candidat arrivé en troisième position avec 21%, un social-démocrate comme lui. Il aurait dû, logiquement, l'emporter largement. Ça n'a pas été le cas. Akıncı a reconnu sa défaite hier soir, tout en remarquant que la campagne électorale n'avait rien eu de normal, rapporte ce matin The Guardian. Une claire allusion à l'ingérence d'Ankara. Le président sortant en a profité pour tirer sa référence. « J'espère que de telles interventions de la Turquie n'auront plus cours à l'avenir, mais... » a-t-il conclu, ce résultat marque pour moi la fin de ma carrière politique après 45 ans. Je souhaite bonne chance à notre peuple. L'élection d'Ersin Tatar, renversant toutes les prédictions, confirme une évidence, note pour sa part Philenews, le site web du quotidien chypriote grec Philelefteros. L'évidence, c'est que c'est bien Ankara qui tire toutes les ficelles et détermine les développements dans la partie occupée de l'île. L'essentiel de la campagne de cette présidentielle chypriote-turque était concentré sur une question et une seule, celle de savoir si les chypriotes turcs devaient chercher à se réunir avec la République de Chypre, position d'Akıncı, ou bien s'ils devaient rechercher une solution à deux États sur l'île et un rapprochement encore plus étroit avec la mère patrie turque, orientation défendue par Tatar, avec le soutien manifeste d'Erdogan. La victoire de Tatar aura de très lourdes implications sur le processus de réunification de l'île, prédit le Cyprus Mail, qui rappelle qu'Akıncı négociait en ce sens depuis 2015 avec le président chypriote grec Nikos Anastasiades. Tatar, au contraire, n'est pas partisan d'une fédération. Il a d'ailleurs annoncé dès hier soir qu'il était prêt à reprendre les discussions avec la partie grecque, mais une discussion basée sur des faits, comprenez, sur la partition de l'île, effective depuis l'intervention militaire turque de 1974.
Et puis on termine en Asie. Ce sont les bons chiffres de l'économie chinoise qui sont remarqués par les éditorialistes.
Oui, la croissance chinoise s'affiche à plus 4,9% au troisième trimestre par rapport à l'an passé, titre ce matin le South China Morning Post. La deuxième économie mondiale a fortement rebondi après une plongée de 6,8% durant le premier trimestre de l'année, la première contraction de son économie depuis la fin de la révolution culturelle en 1976. Une plongée, rappelle le quotidien de Hong Kong, qui s'expliquait largement par les mesures de confinement. Le quotidien du peuple, pour sa part, rencontre des bons chiffres du commerce extérieur, avec un plus 0,7% pour les exportations pour les trois premiers trimestres de l'année. Le gouvernement chinois a lancé tout un train de mesures pour soutenir l'emploi et faire redémarrer son économie, durement touchée par la crise de la Covid-19, rappelle le site web de la BBC. La Banque centrale a musclé ses soutiens après les restrictions de voyage qui ont ont étranglé l'activité économique pendant des mois. En résumé, écrit le New York Times sur sa une, avec maintenant le Covid sous contrôle, l'économie chinoise peut se permettre de redémarrer. Les exportations ont explosé, les institutions locales se sont lancées dans toute une série de projets immobiliers financés par la dette. Même la consommation des ménages est en train de repartir. Une expansion vigoureuse qui démontre, note encore le quotidien, qu'un rebond rapide de l'économie est tout à fait possible dès lors que l'épidémie est fermement mise sous contrôle. En creux, le quotidien américain semble surtout regretter qu'une telle mise sous contrôle de l'épidémie n'ait pas été à l'ordre du jour aux États-Unis. Manière de suggérer qu'en la matière, la Chine a sans doute fait mieux que l'administration Trump.
Merci beaucoup pour cette revue de presse internationale, Eric Biegala. 7h41 sur France Culture.